Fond, le réseau art contemporain de Toulouse et agglomération, organise sa 6e édition du week-end de l'art contemporain. WeAct est une invitation à découvrir ou redécouvrir le paysage local de l'art contemporain, en picorant de façon individuelle ou en participant au parcours en bus. Il propose l'accès gratuit à un ensemble d'événements singuliers pour aller à la rencontre de la création. Visites commentées, vernissages, performances, conférences, rencontres avec les artistes, concerts, dégustations. Autant de moments qui contribuent à la convivialité de ces journées. WeAct, saison 6, propose une nouvelle fois de susciter les envies de tous les publics pour des moments de rencontre et de partage avec l'art. La 6e édition du week-end de l'art contemporain de l'agglomération toulousaine, WeAct, exposition, rencontres, performances, concerts, parcours en bus gratuit du jeudi 20 au dimanche 23 mars 2014. En partenariat avec Radio Éphémère sur le 89.1 MHz de la bande FM à Toulouse, www.radio-éphémère.net.
Merci Kinou. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 15 mars 2014. Nos programmes pour cet après-midi à 13h du sport, les résultats toujours aussi sportifs en direct des vestiaires et bien sûr de l'infirmerie. À 15h du reggae avec Janet Dead et à 17h FMR, c'est de l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici l'émission de travaux pratiques avec des briques colorées que vous attendez tous.
Précédemment dans le supplément week-end.
C'est la journée internationale des droits de la femme.
Exactement, et c'est pour cela que Gulli vous diffuse ce soir une soirée consacrée uniquement à la femme et à ses droits. Avec à 20h45, Barbie, la princesse et la pop star de Ezekiel Norton.
C'est déplorable! C'est déplorable!
Suivi.
On va avoir des emmerdes!
Suivi à 22h de Barbie, rêve de danseuse étoile. Mais on n'oubliera pas les garçons qui peuvent également suivre Barbie.
Ah non, car... pas les théories du genre.
Non, non, pas du tout, parce qu'à 23h30, ce sera Barbie et les trois mousquetaires.
FMR présente le supplément Weekend, le magazine des cultures geeks en modulation de fréquence analogique. Avec, dans cet épisode, du sport, Ultimatum, Morgan et Daskrich.
Thank you.
Santee Power featuring Dee, extrait de l'album Set It Off, Shake Your Body. Et bonjour et bienvenue, c'est le supplément week-end numéro 378. Bonjour du sport.
Bonjour.
C'est bon pour le son. Bonjour Morgan.
Salut.
Bonjour Ultimatum.
Salut tout le monde.
Bonjour et bienvenue. Encore une émission magnifique sous un nuage de pollution. Non, c'est un nuage normal cette fois-ci.
Oui, celui-là il est normal.
Ah, quoique là il est un peu orange. Non, ça c'est la pollution sur les vitres du studio.
Ça me rappelle la ZDF.
Ok, bonjour et bienvenue, c'est le supplément week-end et de suite.
Il était né ?
J'étais en 6ème.
Ah d'accord.
Oh putain.
C'était un souvenir enfant.
Il était en 6ème.
J'étais en contrôle de français et avec les vibrations, il y avait les réponses au tableau, mais le tableau était fermé. Il s'est ouvert et on a eu toutes les réponses. Alors tout le monde a paniqué, mais moi j'ai recopié les réponses. Mais il ne l'a pas compris bizarrement.
Nous on bossait déjà, quelle horreur. On était déjà à l'antenne. Non, pas encore, c'était moi, deux ans après.
Eh ouais.
Enfin bon, bonjour et bienvenue, de suite les news avec un errata de du sport.
Ah, direct comme ça là.
Ouais, m'as dit ouais, non mais je commence, bon d'accord.
D'accord, ok, non mais je commence à partir
le
de
réveil, là.
Midi, quoi.
Il vient de danser sur
alors,
la musique d'intro.
Mais normalement on dit pas...
Tu as chroniqué.
Quand c'est au singulier, on dit pas un erratum, c'est des errata.
Erratum, des errata. Ouais.
Oui voilà, c'est un erratum, merci.
À vos souhaits.
Ouais, non, bah,
désiré des errata.
Daisy Derata, oui.
Oui.
L'ex de Carl Zero.
Oui.
Voilà.
Bon.
Allez.
Après
alors,
cette petite
la semaine dernière, tu as brillamment chroniqué Black Op, tome 7, donc du duo Desberg-Labiano. Et je me suis dit, tiens, bon, je vais quand même jeter un œil. Ça a l'air sympathique et tout.
C'est vrai que alors, le brillamment paraît suspect. Je pense qu'il va y avoir un deuxième effet qui se coule derrière, non
quoi. Oui, non. Alors, bon, bah, ok, j'ai commencé à lire. Vraiment sans parti pris. Surtout que, bon, bah, cet épisode est un épisode qui est antérieur aux épisodes précédents, vu qu'il se passe en 1973. Ou dans les années 70, c'est-à-dire.
T'avais lu les précédents ou pas?
Non, pas du tout, quoi.
D'accord.
Non, vraiment, je pars sans aucun a priori. Et t'ouvres le bouquin, première page et tout, hop, première case, concert de Led Zeppelin. Alors tu vois, pour moi,
oui, donc ça déjà ça te parle.
Ça dit que ça me parle à fond les manettes. Et alors donc, on est à Inglewood County en 1970. Et tu vois 12 babos dans la salle, un mec et une nana qui discutent. Je ne comprends toujours pas comment un groupe géant comme Led Zeppelin a pu ne pas être à Woodstock, dit le mec. Et dit la nana. Et le mec répond, oui, un mec m'a dit que c'est leur manager, Peter Green, qui voulait l'affiche pour eux tout seuls. Et crois-moi, tu n'as pas envie d'être sur le chemin de Peter Green. Merde, Harvey, je suis super contente de savoir ça, de pouvoir parler enfin avec toi. Bon, ça commence comme ça, et tu dis, ok, d'accord. Sauf que le Peter Green dont il est question ne s'appelle pas du tout Peter Green. Peter Green, c'était le guitariste...
Ouais, non mais attends, ils ont fumé.
Qui avait joué auparavant avec un certain John Mayall, puis avait fondé un groupe qui s'appelait Fleetwood Mac, en compagnie de Fleetwood Mac. Quand il s'était barré de chez John Mayall. Et le Peter Grant dont il parle, qui est le manager de Led Zeppelin, vachement connu, bah, ils auraient mieux fait de lire le bouquin de Chris Welch qui s'appelle The Man Who Led Zeppelin, ou l'histoire de ce type qui, avant d'être manager de Led Zeppelin, était carrément une gueule cassée, qui était l'un des bras droits d'un des mecs qui faisait partie de la pègre de Manchester. Donc un mec qui n'hésitait pas à pendre, à suspendre les types par la fenêtre et tout, genre je te lâche quoi si tu me files pas le pognon, des petites amabilités comme ça quoi.
Rock'n'roll quoi.
Un mec bien rock'n'roll, 1m95, 120 kilos, bref, un mec bon. Qui te dit bonjour et tu fermes ta gueule.
Et tu sais que...
Le bouquin a été trahi en français d'ailleurs et est paru chez Rivage Rouge. Alors moi je trouve ça vraiment dommage parce que
première case,
cette histoire,
hein.
Ouais, première case,
à une première case, l'entrée. C'est dommage.
Non, parce que bon bah après quoi. Bon, je me suis dit, ok, est-ce que je peux considérer comme crédible tout ce qui est dit par la suite? Est-ce que les sources ont été aussi bien vérifiées? Parce que bon, bah, c'est une partie de l'histoire pas si lointaine que ça qui est narrée. Bon, bah, on connaît un petit peu la thématique des Black Op. Donc, justement, ça met en perspective un petit peu la suite, quoi. C'est ça qui est un petit peu dommage, quoi. D'avoir une erreur qui, pour moi, est assez énorme quand même. Parce
tu sais que le dessinateur.
D'aller sur Wikipédia, hein, toute façon.
Tu sais que le dessinateur Hugues Labiano, il tient un groupe de Dixie Jazz, d'ailleurs. D'ailleurs, je sais plus quel est son numéro de téléphone, je sais qu'il est sur Toulouse, donc on va pour l'emmerder. Voilà. Dimanche dernier, sur le réseau Fox, le générique des Simpsons a été ouvert par un réalisateur de dessins animés multiple fois nommé aux Oscars, mais qui n'a jamais été récompensé. C'est un Français, aussi un dessinateur d'ailleurs de bande dessinée, hein, quand même, si.
Non, mais continue.
Non, mais on dira rien. Hein.
Si, continue.
Je sens le mauvais piège là.
Non.
Non, bon, moi je me souviens que j'étais allé voir La Vieille Dame au Pigeon à Angoulême en Projo avant de le présenter justement, puisqu'il avait présenté aux Oscars comme ça, mais il n'avait pas présenté à la presse en France, étonnamment.
Ouais, il a fait les Triplettes de Belleville aussi.
Et plein de films, vraiment, enfin c'est dommage, il est vraiment trop peu connu en France, c'est triste. C'est un artisan, c'est un fou furieux qui va travailler. Il a fait toute l'animation, hein, en fait, quasiment de son cours.
Bah, il faut savoir aussi que même si ce qu'il fait, c'est pas une critique de qualitative, c'est quand même super glauque quand même. Le dessin, les Triplettes de Belleville, les Triplettes, elles vivent dans un étang, elles balancent des grenades dans l'étang pour pêcher les grenouilles. Au début, c'est pas du Pixar, hein, et puis même le générique justement dont tu vas parler après, c'est pas franchement ragoûtant non plus. Hein.
Voilà, donc Sylvain Chaumet a été invité à faire le coach gag, c'est-à-dire le gag, une fois que tu as toute la famille des Simpsons qui est assise devant la télé, ouais. Il se passe quelque chose, et là, ben, la lumière est coupée, et quand ils reviennent, et ben, ils sont dessinés à la Sylvain Chaumet, on voit dans le fond un portrait de François Hollande, on voit le paquebot France en train de couler, que des trucs comme ça, et l'animation est à pleurer de rire.
Lisa qui joue de l'accordéon,
il mange des escargots.
Ouais. Il y a Yves Noir.
Il parle français
par un chien familier. Oui,
mais
il parle français aussi.
Où est Maggie?
c'est juste à pleurer
et
de rire.
Si on savait où elle était.
Et ne dévoile pas tout.
Et c'est franchement, ça a été la surprise et vraiment encore une fois une surprise qualitative au niveau de l'animation. Franchement, c'est le truc qui fait tomber. C'est le même épisode d'ailleurs où ils rendent un hommage d'ailleurs à une des voix qui a disparu, qui était celle de la professeure de Bart. Donc ils ont fait un petit opuscule en hommage rapidement sur la fin. Accessoirement, nous, on est des critiques. Et les BD, on les reçoit ou on les achète. Et les films, on va pas les voir en projection presse. Mais il y en a qui râlent parce qu'ils ne sont plus invités aux projections presse. Il s'agit d'un petit fanzine d'ailleurs, financé par un petit industriel, si je me souviens bien, j'ai oublié son nom.
Gourafi.
Non, ça c'est l'original. Ça c'est l'original. La parodie, le Figaro. Donc nos amis,
il est bien plus drôle. Mais eux ils le font pas exprès.
Nos amis journalistes du Figaro, d'ailleurs, j'en ai eu un téléphone avant-hier. C'est le salon du livre. Il me dit où c'est que tu es? Je suis pas là, idiot. Donc il se trouve que ils sont interdits de projection presse par deux distributeurs, Pathé et Gaumont. Tout ça pour dire que dans le Gaumont, il y a souvent des films de Pathé. C'est un peu ça ce qu'ils leur reprochent. Ils leur disent qu'ils ont été un petit peu trop critiques vis-à-vis des films français.
Comment ils disent ça, les navets privés de tomates
dans leur... Oui, c'était... Ah non, ils y sont allés à fond.
Ouais, ils ont bien... Oui, parce que la critique ne peut pas être que positive, donc évidemment...
Surtout vu les films dont ils parlent, ils ont assassiné Super Condriac, ils n'ont pas dit que du bien de La Belle et la Bête. Alors,
je suis d'accord.
Moi qui suis un inconditionnel de Christophe Gans, je suis même pas allé.
J'étais très déçu.
Voilà. Alors en même temps, dire que les films français, les scénarios sont pourris et prenant exemple sur le film de Danny Boone, je vois pas en quoi c'est scandaleux.
Bien sûr.
Donc et puis en plus, on va pas défendre Figaro ici, mais être privé de projection de presse parce qu'ils ont juste fait leur travail, bon.
Ouais, et puis...
Rappelez-moi juste une chose. Il y en a pas un ici qui devait aller voir Les Trois Frères 2.
Et
qui s'est fait assassiner par l'entièreté de la critique, excepté le partenaire presse, alors qu'il a fait 2 millions d'entrées.
Non seulement il n'y est pas allé, mais en plus il va voir d'autres films à la place. Puisqu'il vient de dire qu'il était.
Le numéro que vous demandez n'est plus attribué.
Alors, tu es en train de nous dire que tu t'es gonflé ?
Non, disons que je n'ai pas eu l'occasion, mais j'en ai beaucoup parlé avec pas mal de gens qui l'ont vu, et notamment mon frère à qui j'accorde beaucoup d'importance. Et il m'a dit qu'il n'était pas si merdique que ça.
Mais oui, il n'est pas si merdique que ça, vas-y.
Vas-y, je t'en prie.
Donc apparemment, c'est pas la grosse poilade du début à la fin, mais c'était pas une grosse poilade non plus, les trois frères à la base.
Si tu penses que tu vas t'en sortir en faisant ta chronique en disant apparemment, c'est pas si d'après mal,
ce que j'ai
c'est
entendu.
Pas une chronique. Hein.
Mais non, mais j'ai dit que je le verrai, point final. Voilà. De toute façon, elle a pas de limite de péremption, cette chronique, je peux la faire quand je veux.
Alors, je serais mal placé pour dire ça, puisque moi j'ai fait ma chronique la veille de la nouvelle galette.
Ah, bon, bah merci. Tu vois, très bien. Voilà, il montre l'exemple. Donc,
donc vous avez compris, on fait une émission à la Laurent Ruquier, c'est-à-dire qu'on parle de faits d'actualité entre mecs et en fait, c'est pas intéressant. Et Laurent Ruquier s'est fait dégager ce matin France 2.
Juste, ouais. C'est Ruquier, pas Ruquier.
Ouais, Ruquier, c'est...
Oui, mais enfin bon, c'est un Ruquier. Je suis désolé.
Ah, attends, alors pour ce moment précis, j'ai une application que je viens de télécharger exprès pour toi. Et je voudrais
t'es en train d'enregistrer en douce.
Non, du tout, mais.
C'est moi aussi, je peux faire des retours arrière.
Mais écoute.
Mais suite à ta blague. Voilà, donc j'aurai ce genre de choses à chaque fois. Voilà.
La prochaine fois, on câblera ça quand même. Parce que je t'avais dit qu'il me fallait un vrai PC.
Il y a des trucs aussi qui font ouin, 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 ouin.
Non, mais j'en ai d'autres, ouais.
C'est que je préférerais que tu aies une vraie bécane qu'on puisse brancher sur un registre, ce sera plus simple.
Ça y est, j'ai une augmentation.
L'insulte.
J'ai une augmentation, les gars, ça y est.
Ça s'appelle comment ton appli? Parce que moi, il va falloir m'en servir pour Xavier là. En fait. Ça s'appelle comment?
Insulte box.
D'accord.
Voilà, 12h16, vous écoutez FMR. Et si vous avez une augmentation et que vous trouvez que votre salle à manger mériterait un petit peu plus de classe, sachez que vous pouvez vous acheter une réplique du trône de fer avec des moulages d'épées forgées qui sont tabassées et tout, etc. Il y a un basketteur qui a voulu s'offrir ça. C'est pas si cher que ça en plus, ça vaut
21 000 euros.
Ouais. Mais sa femme a dit, écoute, t'es gentil, mais quand même, ça va un petit peu jurer avec le salon.
Possible. Non, puis l'hiver, c'est ce qu'il disait. L'hiver, c'est que ça va tenir vachement froid.
À mon avis, là, le chauffage à fond, il va pas s'emmerder.
Sachant que juste avant, il avait acheté un lit de 2m38, je crois, un truc
non,
énorme.
Non, il fait 2m38.
Ouais, il fait 2m38 et le lit fait 3 ou 4. Enfin, il est de.
Enfin, tu te dis. Ah ouais!
Le lit, il se fait plaisir, le gars, quoi.
Ouais, bah, d'un autre côté, tu vas pas prendre un Ikea de 2 mètres. C'est basketteur de la NBA, t'es un peu à l'étroit.
Il a les genoux dehors.
Darren Aronofsky s'est fait tirer les oreilles par son distributeur, Thomas.
Alors, Darren Aronofsky, outre le fait d'être le réalisateur de pire, Requiem for a Dream, The Wrestler, Black Swan et The Fountain, qui sont quand même des sacrés bons films, c'est surtout le réalisateur du prochain Noé, donc Noah en VO, qui va bientôt sortir. Avec Russell Crowe, oui. Anthony Hopkins, Ray Winston, Emma Watson.
Alors, officiellement, je crache ce film tout de suite.
Pourquoi?
Parce que ça ne me plaît pas du tout.
T'es d'accord avec ceux qui protestent contre le film?
Parce que Russell Crowe a une barbe, non.
Parce que là, pour moi, il y a tous les ingrédients de l'américain pur et, enfin, des films américains, de l'industrie américaine et de la propagande américaine qui est mis en place pour faire un film hyper religieux, et basé et qui va être déformé sur une histoire religieuse pour faire du fric. Et là, il y a Hercule qui sort aussi, la légende d'Hercule. Et pour moi, c'est dégueulasse parce que c'est une histoire, enfin, c'est pas de la mythologie, mais c'est religieux. Et ça voilà, ils se servent de ça parce qu'ils ont plus d'idées. Et voilà, là, c'est la grosse production. Et ils ont rajouté des trucs à leur sauce, à mon avis. Ça va être...
Donc ça veut dire que les 10 commandements de CCB 2000, c'est une merde alors.
Pas vu.
Pourquoi tu me coupes le micro?
On est censuré.
Non, vous étiez pas censuré, c'est une fausse manip de la part.
Je suis prêt à le voir, y a pas de problème, mais je suis sûr qu'il est. Mais c'est la démarche qui ne me plaît pas.
Sauf que le truc, c'est que la Bible comporte beaucoup de passages qui sont épiques. Et Hollywood aurait tort de s'en priver,
ouais,
de refaire
mais
des relectures. Donc ça veut dire qu'on ne peut plus adapter Robin des Bois, qu'on ne peut plus adapter les grands mythes.
Bah, Robin des Bois, c'est pas religieux.
Non, c'est pas ça le problème. C'est que le film n'est pas exact scientifiquement. C'est ce qu'ils ont dit.
Scientifiquement.
Non, historiquement. C'est pas exact.
Alors, historiquement et scientifiquement, non, mais... dans le communiqué de presse.
Je connais pas l'histoire originale à la perfection, mais de ce que j'ai vu de la bande-annonce, ça fait quand même. On a une base, voilà, et puis on rajoute bien ce qu'on veut avec une guerre en plus.
Si tu veux une bande-annonce, tu vas à la messe, hein, c'est toujours aussi chiant.
Non, mais je suis d'accord, mais si on va tous dans le même sens, c'est pas drôle, y a pas de débat, et puis voilà.
Alors, y a deux possibilités sur le film. Soit Aronofsky essaie de se mettre dans les petits papiers des gens pour essayer de dire hey, je sais faire des blockbusters, regardez, je fais un truc inoffensif.
Ouais.
Soit il s'empare de l'histoire de Noé pour en faire un truc à sa sauce. Connaissant le bonhomme qui a été très très loin dans les expérimentations avant, ça peut donner un truc pas mal.
Je suis d'accord, mais je sais pas, pour moi c'est too much.
Est-ce que c'est le côté religieux qui te gêne ou est-ce que c'est le côté déjà vu?
Non, pas déjà vu, mais pas le côté religieux non plus. C'est le côté, on a plus d'idées, quoi. Et on va chercher un truc à.
Mais non,
mais Noé, non. Ça.
Attends, enfin, tu l'as vu la bande-annonce, genre.
Au lieu de, faire
il fait une barque. Attention, t'as tout vu dans la bande-annonce. En
ouais,
plus.
Mais en même temps, soit tu adaptes pour la première fois Noé, soit tu fais Paranormal Activity 14.
Ça, je suis d'accord.
Reboot.
Ouais. Non, mais je trouve que pertinemment, ça manque. Je sais pas, il y a des scénaristes, il y a des mecs qui ont des très bonnes idées qui pourraient faire des blockbusters, mais là, c'est pas prise de risque.
Ah ben, pour voir des très bonnes idées originales, il faut aller dans les séries télé maintenant.
Ouais, mais ça, c'est clair. Mais alors, c'est comme la télé au détriment d'Internet.
C'est hors sujet. C'est hors sujet.
Ouais, attention, j'ai mon application.
Il y a une seule chose que l'on sait, c'est que Al Douglas ne fera pas la voix sur la bande-annonce.
Non,
Al Douglas, c'est ça.
Al Douglas. Never before has the reality of the ultimate sacrifice hit so close to home.
At our house, he is the...
Voilà, c'est la grande voix des...
C'est le gars qui avait un cancer des poumons, quoi.
Deux, je pense. Chaque poumon.
Alors, celui qui a eu un cancer des poumons, c'était Don Lafontaine, qui faisait le même boulot que lui, c'est-à-dire le type qui... Ils étaient trois, en fait, à faire toutes les bandes-annonces pour la télévision américaine et pour les films américains. Ils étaient les trois, ils avaient des plannings au taquet et ils n'avaient pas besoin de vocodeurs, de compresseurs, tout ce que vous voulez, ou de générateurs à couilles en montant à fond les basses. Ils n'avaient pas besoin de ça.
Nous, on a Richard Darbois, quoi. C'est la
ils
voix
avaient
de...
une vraie voix.
La voix de Bruce Willis.
Ouais, ouais.
On a
c'est Richard Darbois, c'est
entre
ça
autres, entre
on a,
autres.
On a,
entre
oui, Beretta.
Non, il y a Richard Darbois et non, c'est pas lui. Et
c'est Beretta, le doubleur de Schwartz.
Ah oui, oui, oui. Je sais plus comment il s'appelle.
Bref, donc c'était la voix, c'est une immense part. C'était une immense part méconnue finalement de la culture, justement c'est... de ce côté-là, puisque justement les grandes voix, l'énergie et tout ça, ben ça vient de là. Hein. C'est tout ce genre
la
de
voix. La voix, tout simplement.
The voice.
Et bon. Sinon, il a doublé des trucs religieux ou pas?
Ah, il est en travers le Thomas, il est en travers ça, il a pas aimé que je l'attaque là-dessus.
On a parlé tout à l'heure du Trône de Fer, sachez que ce week-end, normalement, à Carcassonne devait avoir lieu une convention Game of Thrones, et elle a été annulée 3 jours avant pour différents problèmes. Primo, un acteur qui s'est décommandé, secondo, une
l'actrice.
Ouais, la tête d'affiche qui s'est commandée, la banque du coup qui s'est qui s'est dédite d'un prêt de 50 000 euros si je me trompe.
Alors il y a une page Facebook qui a été créée pour justement pour que ceux qui avaient acheté les passes hors de prix puissent récupérer leur pognon ou.
C'est de l'ordre de 1000 euros. Ouais.
Je sais pas, c'était 1000 euros. Attends, faut pas déconner non plus. Le pass à 1000 euros, j'aurais dû voir.
Non.
Mais surtout que c'est une organisation lyonnaise qui dont les membres ont fermé tous leurs comptes et ont supprimé même des messages et qui sont absolument injoignables. Donc là, il y a deux possibilités relayées par les médias. Soit c'était des incompétents notoires et puis qui s'en sont pas aperçus. Soit c'était des roublards et qui ont profité d'organiser une fausse convention pour récupérer du pognon. Donc ça, il y a deux solutions. Faut savoir que
je pense honnêtement parce qu'ils avaient un partenariat du MOVE qui devait déplacer leur studio sur place et on sait tous hein, la grande difficulté que c'est de déplacer un studio de radio. Vous pouvez pas imaginer le barnum que c'est. Je penche plutôt pour la première.
Oui, oui, des incompétents. Et alors ils avaient...
Non, je parlais pas du MOVE.
Il s'était fait aider par du crowdfunding, donc évidemment, voilà, ils avaient misé, ils n'avaient pas fait de business plan avant, voilà. Et pour l'anecdote rigolote, c'est Lena Headey, donc l'actrice qui joue Cersei Lannister dans Game of Thrones. Donc elle s'est décommandée, elle a dit je dois assurer la promo de la nouvelle saison, sauf que elle a prétexté une présence qu'elle devait assurer à Los Angeles, qui avait lieu 10 jours avant.
Oui, ah. Ceci dit, on sait, on en parlera, je pense peut-être avec l'organisateur du TGS, ouais. Que c'est pas la première fois. Justement, il avait essayé de faire venir, je crois, les acteurs de la même série.
Non, il a pas essayé, il les a fait venir. Donc ils seront là d'ailleurs pour l'édition de printemps là qui a lieu en avril. Il faut savoir qu'il a fait un petit geste, donc il a annoncé que les 50 premiers qui pourraient justifier de leur achat de leur passe à cette convention de Carcassonne auraient le passe du TGS gratuit.
Donc ça, là, c'est sympa.
Ça a été mis en place cette semaine.
Ça, c'est sympa. Mmh. Bon, bref, plus d'infos. Dans ce cas-là, il faut aller sur le site toulousegameshow.fr. Toulouse-game-show.fr pour avoir plus d'infos.
TGS-springbug.fr.
Allez, tweet.
J'ai tout écrit grave, là.
Deux, trois trucs. Alors, ce week-end, en même temps, aujourd'hui, en ce moment, si vous écoutez en direct, au Mixer Myris, il y a le Hardware Freedom Day. Ça, c'est pour préparer un peu le THSF. On sera en direct, normalement, c'est fin mai. Accessoirement, France 4 va changer complètement de couleur. Enfin, non, ils vont garder la couleur violette, mais ça va être plus une chaîne jeunesse. Et ils ont en journée, ils vont passer plus de dessins animés. Alors attention, le dessin animé qui est annoncé à partir d'avril, ils annoncent le Monster de Naoki Urasawa, l'adaptation en dessin animé de l'excellent polar. Pas du tout pour les gosses.
Le truc pour les enfants. Ouais.
Et toujours dans la lignée des polars, mais alors là beaucoup plus fun. Sherlock saison 3 qui arrivera aussi en avril. Qui devrait être fun. Et si vous êtes gros fan de télévision et de télévision anglaise, sachez que la BBC annonce qu'ils vont fermer une chaîne de télévision l'année prochaine. BBC 3, qui est une chaîne de comédie, c'est un peu équivalent de France 4, mais avec des moyens, qui a produit énormément de séries. Il y a un mec sur Arte qui a fait le calcul, il y a eu 4 fois plus de séries produites sur BBC 3 que sur l'ensemble des chaînes de la TNT pendant la même période en France. Et c'est à eux que l'on doit notamment Torchwood, la série fille de Doctor Who, plein de séries assez délirantes.
Faudrait qu'on en parle d'ailleurs de cette série.
Voilà, déjà fait.
Ouais, mais...
T'étais où pendant les précédentes saisons? Mrs. Ming T. Will ya make me tea? Make love to me. Put on the telly. To the BBC. To the BBC. Yeah, yeah, yeah. BBC 1, BBC 2, BBC 3, BBC 4, BBC 5, BBC 6, BBC 7, BBC 8. Mrs. William, make me tea. Make love to me. Put on the telly. To the BBC. To the BBC. Yeah, yeah, yeah. BBC 1, BBC 2, BBC 3, BBC 4, BBC 5, BBC 7, BBC 7, BBC 8. Will ya let me take my love to me? Put on the telly. To the BBC. To the BBC. Yeah, yeah, yeah. BBC 1, BBC 2, BBC 3, BBC 4. Peace. Ouais, merci, hein, merci. Oh. Vous écoutez Radio Éphémère, 12h29, c'est extrait de la bande originale de Austin Powers, qui est américain, et qui, voilà, blues sympa.
Joue en anglais.
Mike Myers, voilà. Il est canadien.
Il est canadien.
Et paf,
bande dans la gueule.
Pas préparé cette émission.
Non, pas du tout. Et c'est numéro 378 et autant d'amateurisme. Et Ultimatum enchaîne avec la bande dessinée.
Et oui, alors si vous êtes attentif à mes chroniques, vous saurez que j'ai chroniqué tous les numéros des Doggy Bags.
Yes.
Et vous connaissez le concept Doggy Bags, trois histoires, trois auteurs. Sauf que cette fois-ci, c'est plus Doggy Bags tout court, c'est Doggy Bags présente. Et c'est l'auteur Neyef, donc scénariste et dessinateur, qui s'empare du concept en proposant trois histoires, mais à lui tout seul.
D'accord.
Je transmets à du sport. Je sais que il attend fébrilement les nouveaux numéros. Alors, ça raconte quoi
C'est le mec qui fait The Grocery, non?
Non.
Ah non,
non, non, mais ça y
ça
ressemble.
Ressemble, hein,
ouais,
ça
le
ressemble,
travail
quoi.
Sur la texture, les couleurs et la caractérisation.
Peut-être un peu plus travaillé que The Grocery, ouais.
Ouais. Là, c'est plus assuré et tout. On retrouve toujours les fausses pubs, le poster à la fin également, les textures de vieux magazines trouvés dans le grenier. Alors, donc on l'a dit, le postulat change, mais par contre, on retrouve la même signature, des histoires badass marquées par la violence, la culture ricaine et un esprit frontal très premier degré. L'histoire suit le destin de Ronnie et Travis, deux jeunes qui, afin d'intégrer les 66 Street Gang, vont devoir refroidir un membre du clan rival, les Slains. De son côté, Jacob, ancien marine, veut à tout prix préserver son jeune frère Billy des dangers d'un quartier en proie au règlement de compte. Et enfin, dans le troisième segment, il est plus fantastique celui-là. Ça finit par éclairer sous un jour diabolique, les deux premières histoires qui lui sont liées. Parce que les trois histoires sont imbriquées les unes dans les autres. Ce sont des suites directes, avec des petits flashbacks, etc. Alors au début, on est vraiment dans le film, donc l'histoire de gang, avec vraiment la guerre des gangs, des séquences entières tournées à l'intérieur des bagnoles, donc beaucoup basées sur le discours, sur le destin des deux jeunes et tout. Ça se finit dans la violence la plus totale. Le deuxième, plus orienté vraiment sur la quête de Jacob. Et la dernière, ça part sur autre chose. Par contre... Tu boucles le truc, tu vois que bon bah déjà c'est une histoire qui tient sur trois histoires, pas sur des petits segments, donc c'est un peu plus fouillé. Tu prends le temps de t'attacher un peu plus au personnage, parce que d'habitude ils apparaissent, hop là, ils crèvent, voilà. Là on est moins dans le gag, il y a pas beaucoup d'humour un peu plus décalé dans les Doggy Bags généralement, mais là c'est vraiment comme on prend plus le temps, ben on voit que c'est un tout petit peu plus sérieux. Toujours la qualité au top. Vraiment, on sent qu'ils peuvent décliner ça encore beaucoup de tomes. Toujours un régal de lire ça, parce que on voit que c'est des auteurs qui se foutent pas du matériau, quoi. C'est des gens qui respectent justement ce côté roman violent et d'horreur américain des années 60, 70. Dans un esprit un peu Grindhouse, double programme un petit peu, donc c'est vraiment moi j'ai toujours autant de plaisir à lire. Je pense que du sport ce sera pareil.
Il maîtrise de toute façon le genre, hein, y a pas... les gens même, hein,
ouais.
De toute façon.
Donc c'est Run qui est derrière, c'est l'auteur de Mutafukas qui chapeaute tout ça. Je rappelle les références: Doggy Bags présente Neyef. On le connaissait un petit peu sur cette antenne, puisqu'on avait diffusé une interview de lui à l'occasion de la parution de la bande dessinée Segou, puisque c'était une BD sur un gars qui avait un sale goût dans la bouche et qui tuait sa mère avec c'était très très bizarre. Il avait aussi œuvré dans un précédent Doggy Bags en dessinant l'un des segments. Alors le mec il a un peu laissé de côté justement un côté un peu chien fou, un peu allez, j'ai rien à foutre du côté commercial, je fais un truc dans le malaise. Là c'est beaucoup plus orienté exploitation, donc ça fonctionne super bien. Neyef, donc qui s'empare du concept Doggy Bags. Doggy Bags présente, c'est le tome 1, et sachez que la série principale Doggy Bags revient ce mois d'avril avec un nouveau numéro.
L'interview qui avait été diffusée en octobre 2011.
On enchaîne avec une autre BD du label 619, toujours chez Ankama. J'avais oublié de dire que c'était chez Ankama d'ailleurs. Ouais. Alors ça s'appelle donc c'est une l'un des deux spin-offs de Freak Squeal. Ça s'appelle Freak Squeal Rouge. C'est toujours Florent Maudou au scénario par rapport à sa série originale, mais cette fois-ci c'est Souria, c'est un jeune dessinateur débutant qui assure le dessin. C'est le tome 2, ça s'appelle Ma douce enfant, et donc ça suit la jeunesse de Chong Mao, c'est l'asiatique adepte des lames, des armes blanches ultra sexy qu'on avait pu voir dans la série originale Fritz Quill. Alors, le pitch, afin de préserver sa fille Chong Mao de la vengeance de ses anciennes ennemies appartenant aux triades, la terrible Masiko, qu'on avait pu voir dans un des segments de Doki Bags, a choisi de se retirer de la circulation. Pendant ce temps, au lycée, l'héritière doit déjouer les mauvais tours orchestrés par sa maléfique demi-sœur. Heureusement, l'aide de Selene, une camarade amoureuse de Chong Mao et pouvant se liquéfier, littéralement, et de Fei Long, un ami d'enfance, veillant sur elle à la demande de son père mafieux, ne seront pas de trop. Ce nouvel épisode démarre alors qu'une tueuse à gages à quatre bras traque Chong Mao. Les adeptes de Mortal Kombat auront noté la petite référence.
Ah.
Ouais, Mortal Kombat, quatre bras. Hein, y a des gamers ici un peu.
Je sais pas, moi je me suis arrêté à la console avec le truc affreux.
De ce que je vois là, c'est 4... 3,5 quoi.
Ah, non mais t'es allé trop loin déjà.
Ouais. Alors l'action, donc je l'ai dit, c'est une préquelle hein, par rapport à Fritz Quill. Donc ça, là on est plus, alors que Fritz Quill c'était plus la blague. Enfin au départ ça commence par une blague, après ça devient beaucoup plus noir, donc c'était beaucoup sur les arts martiaux, les sens occultes, sur des intrigues souterraines, dévoilant un univers beaucoup plus vaste. Là on est uniquement dans la chronique lycéenne. Donc Chong Mao, elle n'est pas encore très affirmée, elle est très hésitante, elle ne sait pas trop quelle suite donner à sa vie par rapport à sa place dans les arts martiaux, parce qu'on lui parle d'un animal totem, on s'aperçoit dans cette série. Alors Maudou, il est super fort pour ça, c'est-à-dire qu'il y a des questions qu'il laisse en suspens dans la série principale et qu'il donne des petites réponses dans les séries additionnelles. Donc là, on voit pourquoi Chong Mao n'a pas de totem. Voilà, et quand vous découvrirez pourquoi, dit ah ok, parce que le petit coquin de Maudou, il met beaucoup l'accent également, non seulement sur les arts martiaux, mais également sur le sexe, sur l'humour référencé. Et oui, vous l'aurez compris, la découverte des corps, les hormones en ébullition, etc. Mais pas que, parce que ça c'est plutôt.
Oh non ! Il a dit le mot que.
Excusez-le,
faut que je le sorte mon truc ou pas là?
Excusez-le, Xavier a les hormones en ébullition. Ouais, je veux ça, ouais. Des mots comme que, comme autre
c'est
chose,
ça ne jamais assez vite.
Mais également, il y a aussi Maudou qui accroît des thèmes beaucoup plus adultes comme les conflits familiaux ou les personnages qui doivent se confronter perpétuellement face à leur propre destin. La place du destin est super importante, même dans sa série Funérailles. Ah, je crois qu'on passe un câble. Voilà, on fait la tambouille. Alors, on ne peut que applaudir des deux mains devant les progrès accomplis par le dessinateur Souria, puisque autant dans le premier tome c'était assez hésitant, on voyait que c'était son premier album. Là, on reste dans la chronique lycéenne, c'est très orienté manga, mais on voit que c'est beaucoup plus affirmé. La texture granuleuse se fait beaucoup plus discrète par rapport au tome 1. Les ambiances nocturnes et le travail sur les décors fonctionnent toujours super bien. Et ça, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est le travail sur les ambiances colorées qui est pas anodine du tout, puisque là dans le tome 2 les dominantes sont dans les teintes bleutées, puisque la trame principale de ce tome 2 c'est le rapport entre Chong Mao et Selene. Donc il y a une espèce de, c'est un rapport amoureux, sexuel, amical, donc elles doivent éclaircir ça. Donc c'est sous le thème de l'eau, puisque son ami se change en eau, elle se retrouve donc fréquemment à poil. Voilà, c'est un
service. Dans les douches.
Ah, Xavier, tu vas
y aller. Non,
non. Ouais, c'est bon, on l'a perdu. dans le premier tome, on était surtout dans les dominantes chaudes, puisque c'était la découverte des corps. Là, on est dans les dominantes bleues.
Xavier.
Il faut savoir. Ah oui, je fais monter la sauce un peu.
La sauce.
et la froideur des lames qui conclut ce tome, qui finissent de convaincre qu'on est vraiment dans les tons froids et bleutés. Il faut savoir aussi que rouge, donc encore une allusion à la couleur, rouge, Florent Maudou nous l'avait lâché dans une interview, c'est aussi une référence à l'idéogramme chinois triade. Voilà. Donc voilà, donc cette préquelle, elle est un peu plus inoffensive que Free Squeal, beaucoup moins punchy. Par contre, elle est vraiment, on voit que elle a sa place indéniablement devant les deux autres séries mastodontes, donc que sont Free Squeal et Funérailles, beaucoup moins dark que Funérailles, beaucoup moins orienté action que Free Squeal. Par contre, là, c'est vraiment, je trouve que c'est pertinent. Voilà, si vous n'êtes pas allergique au côté un petit peu quotidien, un petit peu lycéen, un petit peu manga. Là, on voit que ce sont des auteurs qui utilisent les codes manga, Juliette, je t'aime, les trucs comme ça. Sauf que c'est un peu plus, c'est digéré, et puis c'est pas juste de la simple copie. Moi, j'adhère. Donc voilà, Free Squeal Rouge, tome 2, c'est une trilogie, donc une petite série de 3 tomes. Donc voilà, ça vous coûtera pas cher si vous voulez vous procurer la série entière dans le label 619 d'Ankama, scénario de Florent Modou, dessin de Souria.
Il était prêt à partir.
Ouais, tu l'as retenu là.
Hein. Ah oui, pas qu'un peu. Et c'est à moi d'ailleurs. Avec une bande dessinée qui s'appelle Rock and Stone, qui sera en 2 tomes hein, d'ailleurs, qui vient de sortir chez Delcourt. Le scénario est de Nicolas Jean, le dessin est de Yann Valéani et colorisé par Gaëtan Georges. Et franchement, ça vaut le coup, c'est vraiment pas mal du tout. Stan, c'est un jeune ado qui est pétri de comics, de super-héros, qui est imaginatif, qui est bricoleur, et surtout, ben, il vit totalement seul. Alors, il vit isolé dans une petite ferme autonome, en plein milieu des plaines arides de la planète Caldoria, une de ces colonies minières du 23e siècle. Et ses parents l'ont abandonné, là, il y a 2 ans, sous la garde d'un militaire, qui a été rappelé d'ailleurs, 2 militaires d'ailleurs, qui ont été rappelés peu après. Et dans la solitude, Stan, s'embêter et tout, il cherchait à s'amuser. Alors il a appris à bricoler avec des outils, il a appris à sculpter les pierres à la torche à plasma et tout, pour leur donner la forme de ses personnages de comics favoris, puisqu'il a un carton de comics qu'il a embarqué depuis la ville et tout ça. Mais un jour, un engin robotisé de chantier va arriver dans une tempête de sable. Un danger de mort pour Stan, depuis que les machines sont devenues erratiques et se sont mises à tuer les humains. Mais surprise, ce robot est attaqué par un autre robot et il s'en sortira et il se montrera amical avec Stan. La ferme étant détruite, Stan et le robot, rebaptisé Rocky, doivent chercher un nouveau refuge. Mais cette promenade sera tout sauf de santé. La faune d'origine de la planète Caldoria n'est pas très amicale et d'autres robots contrôlés par l'intelligence artificielle IAV sont prêts à tuer tout humain qui est croisé. Et d'ailleurs, pourquoi Rocky n'a-t-il pas succombé à la folie meurtrière ? Alors évidemment, un tel script, ça semble exploité 1000 fois, du vu, du revu, dans la bande dessinée, dans les romans, dans l'animation, puisque on pense au Maître du Temps ou au Géant de Fer, au cinéma, avec une scène qui est carrément reprise de Terminator Resistance. Le scénario n'est pas franchement original sur la base, mais la BD est plutôt bien écrite, possède de très bonnes idées, et surtout le dessin, eh ben, il montre une réelle maîtrise cinématographique. Il y a quand même quelque chose qui transpire quand même sur les cadrages, sur la manière dont c'est mis en scène. Et ça envoie, et on passe un bon moment à le lire. Et surtout, il y a une patine fabuleuse, c'est la colorisation de Gaëtan Georges qui donne des textures magnifiques aux vignettes, et qui vraiment fait que, il y a ce côté qui, c'est un futur qui est pas très propre, qui est crade, balayé par les vents du désert et tout ça, et en même temps, il y a les scènes de flashback, dans les hôpitaux, dans les maisons qui sont propres, clean, et qui sont complètement irréelles, justement, par rapport au quotidien de l'histoire. Rock and Stone, tome 1 sur 2, c'est chez Delcourt, Nicolas Jean au scénario, Yann Valéani et Gaëtan Georges au dessin. Vous faites pas piéger justement par le côté vu et revu, non, c'est vraiment, 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 vraiment quelque chose qui... Ben voilà, je l'ai acheté et merde, et c'était une bonne surprise. Alors il y en a qui ont un petit peu regardé, assurez-moi, ça va au-delà quand même de ce que l'on voit dans la couverture. Quand même, quand on le feuillette, il y a vraiment une patine dans le dessin et tout...
Oui, on est la couverture peut laisser entendre que c'est une histoire de méca et on voit que à l'intérieur que c'est beaucoup plus centré sur l'humain. Donc
ça envoie en tout cas vraiment 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 pas mal. Moi, franchement, je vous le recommande. Nicolas Jean, Yann Valéani et Gaëtan Georges, Rock et Stone, tome 1 sur 2, c'est chez Delcourt. Le deuxième tome devra arriver en cours d'année si je me trompe pas.
Ha ha ha!
Et il faut que je trouve à la volée une musique. Allons-y. Hop, on rembobine le CD et zou. Et voilà, on se fait une coupure musicale. Vous écoutez Radio FMR, le supplément week-end numéro 378, coupure musicale, c'est Master at Works featuring You Woo Me, a tribute to Fela. Je pense que c'est Fela Kuti, je sais pas. Master at Works featuring Mumi, a tribute to Fela. Tiens, ça faisait longtemps.
Hey, hey,
hey, hey,
on va laisser parler Morgan, mais si vous saviez les trucs qu'on apprend en off dans cette émission qu'on ne pourra pas révéler à l'antenne.
Sur la vie sentimentale de Thomas.
Tais-toi et enchaîne.
Sur le passé hyper connu de certains de nos chroniqueurs.
Ah là là, mais si vous saviez. Hey, salut à tous, bienvenue dans ce 14e numéro du courrier des audilecteurs, dédié aujourd'hui à un mouvement naissant mais néanmoins conséquent sur Twitter, j'ai nommé la rébellion de Vertolon.
On n'avait dit pas les noms.
Ouais, mais j'ai pas dit le nom de qui. Alors, je commence ma chronique avec ce courrier qui nous vient de Bob. Bonjour à toute l'équipe. Tout comme le joueur de NBA Roy Hibbert, je joue pas mal à la baballe moi aussi et j'aime acheter des trucs de dingue. Lui veut acheter la réplique du trône de fer, mais moi je n'ai pas 20 000 euros. Vous les vendez combien vos protections de micro en mousse parfumée? Alors, c'est une très belle question.
Faudra aller chez Audiothèque ou Midi Music. Ou,
voilà, Midi Music.
Mais, il m'en manque un troisième d'ailleurs.
Il veut les nôtres, je pense, qui sont un petit peu.
Ils sont parfumés, quoi là.
Ils sont parfumés, voilà. Donc,
oh c'est... Je peux pas savoir, mais je crois qu'il y a une émission de libre antenne sexuelle. J'en étais sûr. Et il est toujours pas
remis. Ils ont dû faire les
monologues.
Il est toujours.
Ils ont pas compris le monologue du vagin, je pense.
Ah. C'est pas possible, hein. Mais on va le censurer, ce jeune homme. Donc merci Bob qui ne jette jamais l'éponge de ce message.
Voilà, je l'attendais. Voilà, bravo.
Et est-ce que je peux me faire un tapoum tapoum rien que pour moi?
Oui, vas-y, tu peux y aller pour voir.
T'aurais pu aussi faire merci Bob et chapeau, quoi.
Attends, on l'a pas entendu. Attends, monte au
ouais,
fond.
Ouais, je me règle un peu. Bon, allez les gars, ouais, il va falloir travailler tout ça, hein.
Ouais,
ouais.
Ah,
un petit peu mieux celui-là.
Très bien, je le garde. Alors, je poursuis avec ce courrier d'une personne un peu plus âgée.
C'est n'importe quoi.
Donc c'est une vieille personne, donc je me permets d'imiter un petit peu sa voix parce que c'est une vieille personne. Bonjour les jeunes, c'est Papy tout compris. Stop. J'ai lu dans la dépêche que Numéro Câble allait racheter FMR. C'est bien ça pour vous les jeunes, parce que je comprends pas quand vous parlez à la radio, moi. Allez, béco et dites pas trop de bêtises. Bisous, Xavier. Apparemment, c'est ton papy. Donc, alors, papy. Qu'est-ce que tu es en train de nous faire?
Bonjour, bienvenue. Bonjour.
Bah, je sais pas, hein. Xavier, j'appelle la direction de la radio.
Ah ouais, mais je ne suis pas au courant non plus, donc alors pourquoi Numérica voudrait racheter FMR?
Je sais pas, on verra.
Il faut demander parce que là vraiment c'est bizarre.
Bah oui.
Je pense qu'il dort là.
Il dort tout le temps.
Bonjour, vous êtes sur la messagerie orange du.
Non. Ah. Non. On aura tenté.
C'est bien les gars, vous. C'est bien de rebondir sur ça, c'est bien.
Mais ouais, mais c'est bien, il me soutient, Xavier. Il est gentil.
Non, j'essaie de vérifier l'information d'abord.
Non, mais je pense qu'il s'est planté.
Par contre,
mais...
je peux appeler, effectivement, je dois avoir le numéro de téléphone du rédacteur en chef adjoint de la dépêche.
C'est terrible. Il faut pas se lever le matin.
Ou de Jean-Michel Baillet, je dois l'avoir.
T'as un carnet d'adresse pas possible. Françoise qui nous écrit. Ouais, salut, je viens pousser ma gueulante parce que j'ai vu le générique des Simpsons version française vu par Sylvain Chaumet. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette vision terreur et dépréciée des Français. On les voit malheureux manger des escargots en regardant la télévision, obèses et dépressifs. Alors jusque-là, c'était très fidèle, mais on n'est pas jeunes.
Non, il y a un truc qui n'est pas fidèle.
Il t'a flingué la chute, mais d'une force.
Non, il y a un truc qui manque. C'est quand on regarde la télé, il n'y a pas Michel Drucker.
Il y a pas Michel Drucker, voilà, merci.
Mais on apprécie, je pense que tu peux la relire et je pense la que semaine prochaine et là il te coupera pas et je pense
et on
que là,
on l'appréciera. La... voilà, donc je l'ai. Bon, c'est... merci.
Ben voyons.
On va se foutre dessus ou quoi là, les gars?
Non, pas de suite.
On attend la pause récré. J'ai un courrier qui s'est adressé à Duce. Donc cette personne nous dit « Les gens regardent de moins en moins la télévision. John Farrell, qui dirige YouTube pour l'Amérique du Sud, prédit que 75% des contenus audiovisuels seront consommés via Internet en 2020. Donc Duce, au lieu de présenter les films télé de la semaine, es-tu prêt à présenter les vidéos de Norman et Cyprien ?» Non.
C'est qui?
J'en ai pas question. Qui sont ces gens-là?
C'est qui?
J'en ai pas question. Tu peux chroniquer toutes les chaînes YouTube si tu veux.
Non, parce que je les vois tous les jours à la maison, alors ça. C'est...
Non, mais ce serait bien embêtant.
Vous vous êtes donné le mot, là. Ouais. On m'en veut.
On a touché des sous.
Quel travail d'équipe.
Allez, attends.
Comment il sait?
C'est fini. Ah bah, puisque c'est à du sport. Hop.
Ah bon, sans transition.
Ah bah oui. Ah bah, allons-y.
J'ai l'impression de m'être fait guillotiner.
En format 4 tiers, mono, noir et blanc cette fois-ci. Et pour cause, c'est du ciné, c'est du film noir.
Et c'est à la Cinémathèque, petite piqûre de rappel concernant le cycle polar américain film noir à la Cinémathèque. Ça se termine mercredi prochain, parce qu'à partir de jeudi, il y a Ciné Latino, bien sûr. Et donc, des films qui ont déjà été diffusés, mais qu'on peut encore revoir tout ce week-end, cet après-midi à 15h, toujours à la Cinémathèque. Hein, Les Forbans de la Nuit, donc de Jules Dassin, qui est rediffusé demain à 18h, le film avec Widmark, magnifique, et Jane Tierney, exceptionnel. À 17h, Chris Cross, Pour toi j'ai tué, tiré du bouquin de Don Tracy, le film de Robert Siodmak, avec Brut Lancaster, Yvonne De Carlo et Dan Duria. Excellent, hein, qui est passé hier soir et qui sera donc rediffusé cet après-midi à 17h. À 19h, La soif du mal de Orson Welles, qui est rediffusé mercredi prochain à 21h. Et il y a encore Laura ce soir à 21h, le film d'Otto Preminger, hein, qui est rediffusé mercredi en après-midi à 16h30. Mercredi encore, il y aura Traquenard de Nicolas Rey, qui sera diffusé à 19h. Donc voilà pour les films noirs de la Cinémathèque. Maintenant, je crois qu'on va parler d'un film en couleur, me semble-t-il.
En couleur et en format 2x4. Enfin, un problème plus courant. Bah non, parce que après, ça, t'as les autres briques.
Après, il y en a, oui, oh, deux bah, par quatre, il y en a des 1, des ronds.
Oui, t'as tout là.
Maintenant,
t'as tout là.
Alors, on parle de la grande aventure Lego.
Ouais!
Ouais!
Les JB, si nous écoutent. Voilà. Un film de Phil Lord et Chris Miller, les auteurs de Tempête de boulettes géantes, 21 Jump Street et bientôt 22 Jump Street qui tournait cette année. Produit par la Warner avec les voix en VO de Will Ferrell, Liam Neeson, Morgan Freeman et autres. Donc en VF on a Tal.
C'est rapide.
Il est en edge, il arrive.
Alors, Emmett est un ouvrier, tout ce qu'il y a de plus banal, chiant et suiveur. Il aime ce que les autres aiment, n'a pas d'amis, pas de personnalité. Il vit seul et il aime une musique. Une musique... une musique super énervante.
La Big Thing. Everything is awesome. Everything is cool when you're part of a team.
Vous écoutez Booster FM. Oh. Allez, stop.
Non, tu continues dessus, tu l'assumes.
Alors, jusqu'au jour où il se retrouve propulsé au centre d'une étrange prophétie après être tombé sur Quiltag, une ninja fiancée avec un gars pas commode qu'on ne dira pas qui c'est. À du sport. On dira pas qui c'est, d'accord?
Oh, si, on peut.
Non.
Bon,
on sent qu'il faut pas le percher.
Voilà, ouais.
Sera-t-il le seul à pouvoir contrecarrer les plans de l'infâme Lord Business? Qui veut, on dira pas ce qu'il veut non plus, mais apparemment c'est pas cool. Hein, du sport, on dira pas ce qu'il veut non plus.
Non, mais enfin,
il veut faire une LBO pour acheter
SFR. Il contrôle déjà le monde, pratiquement, ouais. Mais il veut encore plus le contrôler.
Exactement,
dire.
Bien dit. Je m'arrêterai là.
Oui.
Voilà.
Vous allez me dire, comme présentation du film, oui, c'est léger, mais les quelques trouvailles de scénario, les références qui arrivent en cascade, les retournements qui nécessitent qu'on en sache le moins possible m'interdisent de spoiler et je préfère vous laisser le plaisir de la découverte pendant le film parce qu'il y en a beaucoup de plaisir. Sachez, non, Xavier, calme-toi. Oui, je sais que, bon. Sachez juste que oui, il s'agit d'une pub géante pour Lego et que oui, que les différentes licences sont mises en avant. Et...
Ouais, mais attends, la dernière fois que t'as chroniqué une pub géante, tu t'es fait chier.
La pub géante. Oui, Shalimar, tout à fait. Mais là, c'est pas pareil.
Parce que tu peux jouer avec.
On n'a pas la nana qui stripote derrière les toiles.
Avec un très gros Taj Mahal.
Voilà,
Stop. Le Taj Mahal, là, tu te le construis, toi.
Avec
le manuel.
Alors, c'est vrai que les différentes licences sont mises en avant et que la génération des trentenaires est privilégiée. Tu seras d'accord avec moi. Un torrent de gags ultra référencés. Que si t'as pas vu les références, tu peux pas comprendre.
Non, c'est ça. Ouais. Bon, c'est pas grave parce que ça fonctionne quand même vraiment à tous les niveaux. Mmh. Donc, tout le monde va y trouver son compte, de toute façon, quoi. Y compris ceux qui n'ont aucune référence, qui ont juste les références des Lego. Mmh. Parce que, dans le film, on joue également avec ces références, le coup de toujours avoir un plan pour pouvoir fabriquer quelque chose et tout. Ouais. Vraiment, des petites choses comme ça qui sont très très bien rendues dans le film et qui sont également un petit peu tournées en dérision. C'est ça qui est vraiment très très intéressant.
Exactement. Parce que, rappelons-nous, cette chanson que Emmett adore, elle revient plusieurs fois dans le film.
Ouais, c'est comme le gag à la télé.
Ouais, alors là c'est un gag dans l'émission, mais sachez que c'est elle revient vraiment plusieurs fois.
Elle revient.
Alors
c'est peut-être ce qui va un petit peu dérouter les parents. Et leur dire, mais qu'est-ce que je fous là? Parce que justement, effectivement, c'est récurrent, quoi. Comme d'autres gags qui sont récurrents, il y a d'autres trucs qui sont un petit peu récurrents comme ça, qui reviennent de temps à autre et tout. Et puis bon, qui font un peu, qui sont un petit peu plus lourdingues, on va dire. Mais bon, qui sont tout à fait appréciables justement parce que c'est la récurrence qui fait que on se dit, ok, c'est quand même bien amené, quoi, au moment où il faut, quoi, bien. C'est pour cela que le film vraiment vaut son pesant de cacahuètes à mon avis, quoi.
Alors le film techniquement il est fait en 3D mais avec la technique du stop motion, c'est-à-dire que c'est-à-dire image par image.
Ah, ils ont vraiment fait les petits persos.
Ils ont tout modélisé et justement le fait que ce soit en stop motion c'est une surprise parce que si vous avez vu le dessin animé Lego Ninja ou si vous connaissez les franchises jeux vidéo avec les Lego, l'animation est très fluide. D'ailleurs, justement, j'ai vu une chronique du jeu vidéo adapté du film, et il y a des scènes du film qui sont dedans. Alors, tu as tout qui est fluide, et puis après, tu as ce qu'on appelle donc le feature, donc l'extrait du film. Mmh. Là, c'est en stop motion. T'es un petit peu décontenancé.
Alors,
qu'est-ce
qu'il y a de rigolo, c'est qu'ils sont allés à fond dans ce concept-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet additionnel de lumière ou d'effets spéciaux, tout est fait en Lego. C'est-à-dire que quand il y a un bateau dans une tempête de sur l'océan, eh ben, les vagues sont faites en Lego.
Oui, mais alors, quand par exemple Emmett prend sa douche, si tu veux, quoi,
excellent.
Ce qui tombe, alors ça c'est vraiment incroyable. Enfin, disons, c'est très très bien rendu. Ce qui tombe, c'est des petits éléments, des ronds avec un élément qui tombe comme ça, quoi, et qui forme les bulles, en fait. Ouais. C'est très très bien rendu. C'est à ce niveau-là aussi, déjà au niveau technique, ils sont arrivés à reproduire un monde de Lego, mais c'est pas uniquement les éléments, mais également le décor qui est fait entièrement en Lego, en surface de Lego. Et c'est là que la performance est vraiment très très bien rendue, incroyable. Et ce tout au long du film, c'est ça qui est vraiment très très fort quand même.
Alors,
c'est juste que j'avais vu un tout petit reportage sur le film, et en effet, cette vague dont tu parles, je crois avoir vu, c'est une grande vague bien bleue, enfin, elle a été générée par ordinateur, ça par contre, j'avais vu l'extrait. Donc, je pense qu'ils se sont quand même pas mal appuyés sur l'informatique et sur la 3D.
Ah oui, tout est fait en 3D, sauf que le rendu final est fait en Lego.
D'accord.
Ouais. Alors,
génial, qui est très fort.
Génial.
Voilà. Alors, on parlait des licences tout à l'heure. Sachez, pour l'anecdote, ce qui est très rigolo, c'est que le film grille tout le monde, puisque la Justice League of America, elle est réunie dans le film avant le film de Snyder.
Ah,
t'as Batman, Wonder Woman, Green Lantern et Superman. Avec un Green Lantern, je pense que les fans, il faut pas qu'ils regardent le film.
Ouais, non, mais bon, il y en a d'autres, c'est pareil.
Voilà.
On va pas dire le monsieur avec un S et tout.
Bon, je tiens à signaler parce qu'il y en a un qui est en train de s'exciter de m'envoyer des messages.
Il est maltraité dans le film.
On salue JB au passage.
On salue JB qui dit « Merci Tom de ne pas avoir voulu tout spoiler. A priori, beaucoup de Lego en fond vert. » Non, c'est faux, c'est que de la 3D. C'est que de la 3D et ça a été scanné, numérisé. Mais tout est de la 3D. Ils ont fait un logiciel spécifique pour tout faire en 3D.
Le fond vert, il est fait en mur de Lego vert.
Hein. Ouais.
Alors, pour finir, on dira, souvenez-vous des premiers Pixar et de Toy Story. Souvenez-vous de cette volonté de tordre, d'inventer, de surprendre, tout en traitant des sujets sérieux ou en convoquant des références adultes. Là, c'est le cas.
Ouais,
le cas dans le film. On retrouve tout ça par moment. Certains, oui, certains qui nous écoutent. Tiens, tu en as nommé quelques-uns tout à l'heure. Je ne peux pas dire qui. Le film vous est même adressé. Voilà.
Wow.
Alors, je vous confirme. Je sais pas pour toi. Moi, j'ai eu furieusement. On a furieusement envie de jouer au Lego en rentrant. Je m'y suis mis. On s'était même pas déchaussé. On s'est foutu au Lego. Cash. Je sais pas pour toi.
Non, mais moi, les enfants, ça marche bien. Ouais.
Alors, la morale du film.
Non, je m'inquiète. Je m'inquiète. Attendez.
Lego Chima.
Attendez. Il faut que je monte l'autre micro à côté, voilà, pour avoir le son. Tu peux me réorienter le bleu, s'il te plaît, vers le bas, parce que je pense que là, il va. Non, c'est pas vrai. Faites les photos, les enfants. Ah oui, non, mais il le fait en plus.
Alors, je vous laisse.
Décroche le micro, mets le poste dessus.
Je vous laisse. Je mets en pratique la morale du film. Voilà. Et puis vous me retrouvez tout à l'heure.
Allez, bon Lego.
Jusqu'au bout. Ah ouais, pas mal. Bravo, merci. Je voulais passer à autre chose plutôt que de la.
Alors
que
comme on est on chronique aussi des films, j'ai ramené des petites licences.
Ah ouais. Oui. C'est sympa.
Rendez-vous sur Twitter pour voir tout ça.
Tout est magnifique. Everything is awesome. Allez, ta gueule. Les scénaristes se suivent et se ressemblent. Et on s'en sort toujours et on aime toujours ça. C'est la loi des séries. Et
enfin, j'espère. Bonjour. Non, mais il a déjà fait des chroniques. Je suis bête. Ah, bah oui. Duce, ma foi.
Rassurez-vous, au cinéma, pendant Lego Aventure, c'est pas trop fort la musique. Vous subissez cette musique, mais bon, ça va.
Je tiens aussi à signaler, parce qu'il y a eu un whine, donc un 7 secondes qui a été tout à l'heure tweeté par Morgan, qui a été repris par un animateur de France Culture. Je veux que pendant la matinale cette semaine sur France Culture, entre 8 et 9, Marc Voinchy s'amuse avec des Legos, qu'on rigole un peu dans cette. Ouais, on est suivi, s'il vous plaît. Allez!
Bien sûr qu'on est suivi.
Du sport boot, parce que lui il est Playmobil.
Non, pas du tout, non.
Bon, mécano alors.
Non, mais si tu savais, tu peux pas savoir. tu sais pas ce que c'est. Faut que je t'invite chez moi.
Tu peux pas comprendre.
Faut que je t'invite chez moi pour que tu comprennes, ce que c'est les Lego.
Oui, c'est sûr.
Alors, des films à la télé cette semaine. Avec Canal+, hein, qui nous propose ce soir à 20h50 un excellent petit film de Derek Cianfrance, qui date de 2012, sorti au début de l'année, The Place Beyond the Pine. Excellent, excellent petit polar avec Ryan Gosling, Bradley Cooper, Eva Mendes, Rose Byrne, enfin bon, Bruce Greenwood. C'est vraiment un excellent petit film et tout. Alors le début, bah, il ressemble un petit peu à Drive, parce que bon, bah, Ryan Gosling, il est également cascadeur, mais sauf que là, il est à moto, il n'est pas en auto. Mais à part ça, ça a rien à voir. C'est très très bien amené, le scénario est magnifique. Bref, un film à voir, un des très très bons films de cette année là pour moi. Sinon, ce soir, pour Ciné Plus Premier, The Killing, la saison 3. Deux premiers épisodes, donc c'est inédit, bah, ça vaut le coup quand même. Les TCM, j'ai pas fait exprès, hein. The Killing, c'est une série danoise, et TCM diffuse également ce soir à 20h40 Les Vikings, le film original de Richard Fleischer en 58 avec Kirk Douglas, Tony Curtis tout jeune et un Ernest Borgnine que t'as du mal à reconnaître au départ, hein, mais enfin bon, c'est un peu normal. Ou alors ce soir, rediffusion depuis le début sur Cinéfix, des Metal Hurlant Chronicles à 20h50, la saison 1, donc les deux premiers.
Oui, il n'y a que la saison 1 pour l'instant, la saison 2 est annoncée.
Eh oui, demain.
Elle est sur une chaîne d'ailleurs qui est sur le canal 216 de ta SFR Box.
Pendant ce temps, Thomas continue ses Lego. Hein.
Vas-y. Demain sur NRJ 12 à 22h30, Highlander. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu Highlander. Il n'en restera qu'un et tout le team. Bref, mais c'est l'original. Sinon, sur numéro 23, demain à 20h40, Empire du Soleil, l'excellent film de Spielberg avec Christian
Bale. Oh, c'est la première fois qu'on parle de cette chaîne.
John Malkovich et Miranda Richardson, entre autres. Sinon, sur Sifi, demain
L'Empire
soir...
L'Empire du Soleil, ce film où de Christine est devenue amoureuse de Christian.
Exactement. Pas amoureuse, mais enfin bon...
Non
admirative, on va dire.
Je t'ai essayé qu'on parle pas d'acteur, quand même. Hein. On parle de vie privée entre nous.
Sur Sifi, demain à 20h40... demain à 20h45, Sifi présente... Piranaconda, le Wonder Ski avec Michael Madsen et Rachel Hunter. Alors ils sont juste là pour toucher le chèque. Ils crèvent au bout d'une demi-heure, puis comme ça ils ont plus besoin d'apparaître. Et puis ils laissent les jeunes faire le reste. Quoi. Là, c'est comme ça que ça se passe généralement dans ce genre de film. Sinon sur OCS Géant, encore un autre Spielberg excellent, 1941 à 20h40.
Très drôle.
Ah oui. Ouais. C'est pratiquement un... C'est pratiquement un truc de Tex Avery, quoi, tu vois, quoi, traité dans le style et tout, quoi, c'est graphiquement parlant, quoi, c'est génial comme film, bref, c'est à voir. Action vous propose encore du Spielberg, Sugarland Express, c'est son premier officiel, on va dire, parce que Duel était considéré comme un film de télé, pas de cinéma, quoi, et là, il fait très fort. Avec cette espèce de cavale, pas à la Bonnie and Clyde, mais enfin bon, un petit peu plus sociale, histoire de gosse qu'il faut retrouver, on fuit l'atoll, enfin bon, un road movie, magnifiquement interprété par Goldie Hawn, William Atherton, Ben Johnson, bah oui, le même qui est dans tous les westerns de John Wayne et des années 50. Ça, c'est donc sur Action, demain, Sugarland Express. Il y a également, demain sur D17, ah, ça peut être intéressant pour les gens qui aiment bien la musique. C'est un concert anniversaire dédié à la première apparition des Beatles il y a 50 ans aux États-Unis. C'était en février 1964. Et à l'occasion de ces 50 ans d'anniversaire à Los Angeles, eh bien, un grand concert a été organisé avec plein d'artistes qui sont venus interpréter des morceaux des Beatles, dont Alicia Keys, Maroon 5, Pharrell Williams, Stevie Wonder,
ça doit être
Katy
pas mal.
Perry, y a également bien sûr Ringo Starr et Paul McCartney qui montent sur scène pour interpréter leur morceau et tout quoi. George Harrison et John Lennon ont été excusés, ils ne sont pas venus à la cérémonie. Lundi, on a sur Canal Plus décalé les 7 psychopathes dont je vous avais parlé.
Oui, il y a pas 7 personnages, mais avec des psychopathes.
Voilà, le deuxième film donc de Martin McDonagh qui nous avait fait déjà Bon baiser de Bruges.
Oui,
In Bruges.
Oui,
donc,
oui.
Excellent. Donc je croyais qu'il était irlandais d'après le nom, mais en fait il est né à Londres le mec quoi. Mais après c'est vrai que très tôt sa famille s'est installée. Du côté de Galway, donc en Irlande, donc il peut se considérer comme irlandais vu qu'il est déjà des parlants irlandais quoi. Enfin bref quoi. Tout ça pour dire que le film il est vraiment très très bien. Il part pas du tout dans la direction à laquelle on s'attend au départ. On se dit ça va être psychopathe, ok, un film de baston avec des mecs qui s'entretuent, génial, cool. Et c'est pas du tout ça quoi, mais c'est un truc complètement tordu avec l'histoire d'un scénariste à Hollywood, à Los Angeles, qui ont mal d'inspiration, qui est en train d'écrire un scénario justement sur des psychopathes, qui s'appelle 7 psychopathes. Et en fait, la réalité va se mélanger à la fiction. Alors c'est là que c'est vachement rigolo. Mais par contre, c'est servi par un casting impeccable. Il y a Colin Farrell, il y a Christopher Walken, qui est magnifique dedans. Woody Harrelson, qui fait du Woody Harrelson. Donc, soit on aime, soit on déteste. C'est ça le truc avec Woody. Quoi. Moi, j'aime bien. Alors donc, ça passe. Et du côté féminin, il y a Olga Korolenko, Abby Cornish. Mais c'est vraiment très, très bien. Donc, c'est lundi sur Canal Plus décalé à 20h50. Arte vous propose une soirée Terrence Malick qui est vraiment pas mal au niveau du choix des films, puisque tout d'abord on a Le Nouveau Monde, le film sur l'histoire de Pocahontas, bon, pour faire bref, avec Colin Farrell, Corianka Kilcher, Christian Bale, Christopher Plummer. Le film, moi je l'ai trouvé très très beau, vraiment,
oui, moi aussi, ouais.
Vraiment très très bien, très intéressant quoi, vraiment rien à dire. Et après bien le film qu'il a fait connaître à 23h, la balade sauvage de Malick avec Martin Sheen, Sissy Spacek et Warren Oates entre autres. Il y a également lundi sur D8 on pourrait passer le dernier des Templiers, mais c'est une soirée médiévale en deuxième partie de soirée, Black Death, un film de Christopher Smith, anglais, avec Eddie Redmayne, Sean Bean, David Warner, Carrie Van Houten. Ça charque à fond les manettes et tout, c'est assez violent quand même, je préfère vous prévenir. Sinon sur Ciné Plus Classique, lundi, toujours à 20h45, Le Commando des Tigres Noirs, un film de Ted Post. Ted Post, le mec qui avait fait Pandélie haut et court avec Clint Eastwood. Et là, ben, on retrouve Chuck Norris dans un film de guerre avec Dan Andrews également et Anne Archer. Sinon, lundi également sur Ciné, sur Polar, eh bien, à 20h50, il y a Fantomas, le film dans la version de 1947 de Jean Sacha avec Marcel Héran et Simone Signoret.
Qui est très noir. C'est la version noire, c'est pas.
C'est la version proche du
céréole.
Du roman, quoi.
Oui, oui.
Voilà, quoi.
Du feuilleton journal.
Voilà. Jean Sacha qui c'était son premier film en tant que réalisateur, parce qu'avant, il était plutôt monteur, assistant réalisateur. Il a été assistant réalisateur de Clouseau sur Le Corbeau, par exemple. Et il a également été donc monteur sur pas mal de films de cette époque-là. Fin des années 30, début des années 40. Il a également été scénariste et monteur sur le Othello d'Orson Welles. Voilà pour Jean Sacha. Mardi donc sur TF1, toujours Person of Interest saison 2, c'est l'épisode 17 et 18. Là ça commence à se préciser quand même, cette histoire de complot et de double jeu et qui manipule qui et qui cherche qui. Ça pourrait paraître assez abscon, et si vous rentrez dedans comme ça, vous allez pratiquement rien comprendre. Il faut dire que les cerveaux triturés conjugués de Gigi Abrams qui produit et de Jonathan Nolan, frère de Christopher, donc qui a créé la série et qui scénarise et qui réalise. Il a réalisé un des épisodes de la semaine dernière. Hein, là, il passe derrière la caméra aussi, quoi. Peut-être la bataille des deux frères bientôt à la réalisation. Mais bon, c'est quand même très très intéressant.
C'est assez fun.
Ouais. L'épisode avec la nana là.
Oui, parce que c'était un bottle. T'avais l'impression où on écarte les personnages principaux.
Exactement.
C'était franchement agréable.
Ouais,
ça rafraîchissait.
Donc c'est mardi, donc à 20h55. Mais mardi, par contre, il va falloir faire un choix, parce qu'il y a quand même pas mal de bons trucs en même temps, quoi. Sur France 2, mardi, il y a également à 20h45 les deux premiers épisodes de Apocalypse, cette excellente série. Cette fois est consacrée à la Première Guerre mondiale. Il y a eu d'abord l'Apocalypse au départ, c'était la Deuxième Guerre mondiale. Il y a également eu un Apocalypse Hitler, un Apocalypse je sais plus quoi, dans cette déclinaison, mais toujours d'excellents documentaires, hein, de toute façon. Et là, eh bien, c'est la Première Guerre mondiale, c'est normal, un centenaire oblige. Sur M6, Real Steel de Sean Levy avec Hugh Jackman et tout, quoi, qui est
très bien.
Qui est bien aussi. Sur Canal Plus Cinéma, Oblivion de John Kosinski, film avec Tom Cruise et Olga Kurylenko, qui est pas mal.
Il est pas désagréable.
Voilà, c'est ça, quoi. Et sur
comme on avait dit quand on avait chroniqué le film, j'aime bien sa piscine et la nana qui va avec.
Exactement.
Ouais.
C'est clair. Et ça, tu t'en rappelles.
C'est clair. Et sur D8, une soirée Rocky avec tout d'abord le Rocky 3, c'est-à-dire celui avec Mr. T. Et le morceau de Survivor, Eye of the Tiger, quoi. C'est son sous-titre d'ailleurs. Suivi du Rocky original, donc celui avec de John G. Avildsen, le mec qui nous a fait également Karate Kid un petit peu plus tard. Mais ça, on l'avait déjà dit la semaine dernière.
Ouais.
Comment, t'aimes pas Karate Kid?
Non, c'est très bien.
Alors.
Mais c'est bien.
Allez, mardi toujours, là, ça se gâte un peu avec D17 qui propose à 20h50 Morsure mortelle de Fred Olen Ray. Ça, c'est un vétéran, du film série B, DTV, tout ça, quoi. Avec Treat Williams, Anna Janicki, et là, c'est des serpents à sonnette génétiquement modifiés qui foutent le why.
Très bien.
Suivi des poissons mutants de Frankenfish, la terreur des bayous. Ça, c'est toujours sur D17 à 22h35. Ou alors, on pourra préférer sur OCS Max. Là, ça vaut vraiment le coup, C'est la mini-série qui a été diffusée par HBO, qui s'appelle John Adams, et qui a obtenu de nombreux Emmy. Paul Giamatti, qui interprète le rôle de John Adams, a obtenu un Emmy pour meilleur acteur dans une mini-série. Laura Linney, David Morse, Rufus Sewell, Tom Wilkinson, Sarah Paulet, ça c'est le casting. Et en fait, ça a été créé par Tom Hooper, le discours d'un roi et tout ça.
D'accord.
Et il faut savoir que John Adams, c'est quand même le deuxième président des États-Unis. C'est celui qui vient juste après Washington, premier président des États-Unis. Son vice-président, c'était Jefferson. Et c'est le premier président des États-Unis à habiter la Maison Blanche, qui à l'époque était noire d'ailleurs.
Oui, puisqu'elle a été refaite
après. Parce qu'elle a cramé.
Elle l'a cramé pendant la guerre de sécession.
Ils l'ont refaite et puis ils l'ont peint en blanc, quoi. C'est con, quoi.
Tu vois comment ils sont. Et donc, à l'initiative de John Adams, il y a eu beaucoup, beaucoup. C'est un des pères fondateurs. Hein, il est considéré comme un des pères fondateurs. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup compté. Mais seulement, c'est le type qui est au milieu de Washington, Jefferson et ceux qui étaient là au début 1776 et tout ça, quoi. Donc, c'est un petit peu l'oublié. Qu'on connaît pas vraiment par rapport aux autres. Et la série vraiment est de très très grande facture. Donc c'est à partir de mardi prochain les deux premiers épisodes d'une série qui en compte 7 sur OCS Max, John Adams à partir de 20h50. Sinon sur OCS Shock, toujours mardi prochain, vous avez The King of New York, le film d'Abel Ferrara, Christopher Walken, Larry Fishburne. Ouais, ça vaut le coup quand même. Mercredi, Canal Plus Cinéma vous propose à 20h50, Exit de Peter Lindmark, un film on va dire un petit peu thriller, espionnage et tout ça, avec Mads Mikkelsen et Alexander Sarsgaard. Sur Syfy, Dino Shark de Kevin O'Neill avec Eric Balfour.
Mais il est, oui, pas mal, ça peut pas être sympa, ça peut pas être de Shaq O'Neill.
Non.
Non, d'accord. Elle était périlleuse, désolé.
Sur OCS Max, mercredi prochain à 20h40, Skyfall. Ah ouais, pas mal.
Ah yeah, sympa.
Et sur OCS Géant, à 20h40, Les Aventuriers du Désert de John Sturges, un de ses premiers films en 49 avec Randolph Scott et Ella Raines. On a également sur TCM, Le Souffle de la Violence à 20h40, un film de Rudolf Maté en 1955 avec Barbara Stanwyck et G. Robinson. Rudolf Maté, qui est né polonais à Cracovie en 1898, Rudolf Meyer, il est mort en 64 à Los Angeles, américain, et c'est le type qui a beaucoup bossé comme directeur photo au départ, hein. Il a bossé pour Fritz Lang, pour René Clair, Howard Hawks, les deux frères Vidor, Lubitsch, Wells, enfin j'en passe et des meilleurs, et ensuite quand il est passé à la réalisation, il a quand même fait des trucs comme donc Le Souffle de la Violence. C'est un western, il a fait Dead on Arrival, un excellent petit polar, super sympa. La version originale, c'est lui. Hein. Le Choc des Mondes, également, il a fait l'année suivante. Et il a fait également La Bataille des Terres Mobiles. Le titre original, c'est The 300 Spartans. Eh oui, la version originale, c'est lui. Frank Miller lui a tout pompé, quoi. Bref, c'est Rudolf Maté. Il y a également, juste après, Le Souffle de la Violence sur TCM, mercredi prochain, Les Contrebandiers de Moonfleet, le film de Fritz Lang, de Corsair et de tout ça, mais magnifique, excellent, avec un excellent Stewart Granger. FX propose mercredi prochain également une bonne soirée avec à 20h50 Histoire Extraordinaire, tiré des Histoires Extraordinaires de Poe. Alors c'est un film à sketch, comme ça se faisait beaucoup dans les fin des années 60, début des années 70, mais là le réalisateur c'est Louis Malle, Roger Vadim et Federico Fellini, avec les frangins Fonda, Jane et Peter Fonda, Delon, Bardot, enfin casting à toute épreuve et tout. T'as même Jane Fonda en petite tenue qui chevauche un cheval blanc et tout, quoi, un moment dans un des épisodes et tout, quoi. C'est assez rigolo et c'est suivi. C'est regardable de toute façon, hein, c'est vraiment voir. Ça s'appelle Histoire Extraordinaire, un film de 1968.
Ah, donc c'est pas les Histoires Extraordinaires de Pierre Bellemare.
Non, pas du tout.
Ah bah non, désolé.
C'est tiré des Histoires Extraordinaires de Poe. Hein.
Donc actuellement, l'intégrale est disponible dans Téléachat à un prix exceptionnel.
Tu l'as fait tellement mal.
Alors c'est suivi.
Je sais, je suis à froid.
C'est la pire imitation de Pierre Bellemare que j'ai jamais entendue.
C'est suivi par les diables.
La gueule est lancée, le petit boom.
595 francs.
Ah ouais, pas mal.
13h22, c'est le supplément week-end
là,
sur FMR.
Là, je suis estomaqué, là, tu vois, franchement, quoi.
T'as vu, elle est...
Ah ouais, non, franchement, là.
Le FMR, mais il est...
Ah ouais.
Bootyful.
Bon, ok.
Donc, Histoire Extraordinaire, mercredi prochain sur FX, suivi à 22h50 des Diables de Ken Russell. Excellent. Sur Action, également, une bonne soirée avec Walter Hill, deux films, Les Pilleurs, tout d'abord, le film avec Bill Paxton, William Sadler, Ice-T, Ice Cube, et suivi des Rues de Feu, un autre film de Walter Hill en 1984. Jeudi, on a sur D8 le Miami Vice de Michael Mann. Bah ouais, pourquoi pas, hein. Ou alors sur D17, un excellent film pour se populariser avec l'état d'esprit de Alex de la Iglesia, sans tomber trop dans le trash.
Et ben c'est le cas d'Un crime à Oxford. C'est une excellente introduction au film pour commencer dans l'univers de Alex de Liaquesdia. Puis après on peut aller un peu plus loin.
Ouais.
Là, au fur et à mesure de la cinématographie.
Je t'ai dit.
Tu vois ce que je veux dire? Alors avec Elijah Wood, John Hurt et tout quoi, ben le film à l'anglaise quoi, parfait quoi, mais vraiment parfait quoi. Sur 13e rue à 20h45, c'est un inédit, le sang de la rédemption. Ah, ils s'y sont mis à deux pour le faire, hein, Serafini et Sougaz, mais par contre le casting, si c'est Dolph Lundgren qui est en tête, il y a également Billy Zane, Vinnie Jones et Robert Davi.
Voilà, que du bad guy là.
Que du bad guy.
C'est qui le gentil?
Il y en a pas. Il y en a pas. Ça c'est sur 13e rue jeudi prochain à 20h45. Sinon, Ciné Plus Frisson vous propose jeudi prochain une soirée Olivier Marchal avec tout d'abord à 20h45 Le Lyonnais, suivi à 22h25 du MR 73. OCS Max, un bon film musical qui a pécho plein d'Oscars d'ailleurs à cette occasion, c'est Chicago de Rob Marshall, avec René Zellweger, Zeta Jones, Richard Gere et tout, mais c'est vraiment très très bien foutu.
C'est une adaptation en fait d'une comédie musicale de Broadway.
Ah oui, oui, donc, non mais c'est très bien fait au niveau du filmiste. Filmiquement parlant, quoi, je veux dire, au niveau
surtout que le thème de Chicago, quand même, c'est un procès.
Oui, parce que c'est une histoire un peu trash, quoi, en plus, quoi, c'est ça, quoi. Mais c'est vachement bien tourné, quoi, c'est vraiment à voir. TCM, jeudi prochain, vous propose une soirée Chaplin avec tout d'abord à 20h40, La Ruée vers l'or, le film de 25. Alors là, c'est un des chefs-d'œuvre hein, de Chaplin, on est tous d'accord, hein, là. Tout le monde connaît la scène où il essaie de bouffer la godasse, quoi.
La soupe à la godasse.
Ouais, la soupe à la godasse, ok. Et suivi d'un autre excellent film de Chaplin, mais parlant celui-là, c'est Monsieur Verdoux, qu'il a sorti en 1947. Il interprète le rôle d'un monsieur qu'on a bien connu chez nous et qui mariait des dames pour les tuer ensuite et s'accaparer leur héritage. Vendredi, on termine avec sur Arte un petit téléfilm sud-africain qui s'appelle Skin d'Anthony Fabien avec Sophie Okonedo, Sam Neill, Alice Krieger et qui raconte l'histoire d'un couple de colons blancs affiliés à un parti raciste en Afrique du Sud dans les années 50 et y a un petit bébé qui naît. Le problème, c'est qu'il est métis.
C'est un gros problème.
Sur Sci-Fi, vendredi prochain à 20h45, le Star Trek de J.J. Abrams.
Sci-Fi.
Bah ouais, pourquoi pas quoi. Ou alors Ciné Plus Frisson qui vous propose une soirée, on va dire Roger Avary, vu que au départ c'est Killing Zoe à 20h45. Alors excellent, hein, Julie Delpy, Anglade, Stolz, enfin ils sont tous bons dedans quoi. Suivi de Reservoir Dogs de Roger Avary et Quentin Tarantino aussi un peu quoi, quand même. Hein. Ou alors OCS Choc qui propose vendredi prochain une bonne soirée JCVD avec Risk Maximum tout d'abord. Course poursuite en Clio, ça vous dit? Ah bah ouais, c'est ça. Natasha Enstride aussi, quand même. Et Ringo Lam à la réalisation. Donc ça le fait quand même, hein, faut le dire quoi. Et suivi de Street Fighter de Steven Souza. Ouais, cool,
ouais,
cool,
super.
Cool. Là c'est déjà plus psychédélique. On est déjà un petit peu plus dans le psychédélisme, mais c'est pas grave. On est un peu plus tard dans la soirée, donc ça passe quoi. Je termine avec une excellente série que j'ai découverte, qui est déjà diffusée sur Planète A et E, parce que bon, ils ont changé les dénominations, j'y comprends plus rien, mais c'est pas grave. Donc Planète A et E qui propose cet excellent documentaire qui a beaucoup de succès d'ailleurs, parce que je me suis renseigné pour un petit peu vous raconter de quoi il s'agit en long, en large et en travers. Il s'agit d'une documentaire qui s'appelle Duck Dynasty. Alors, t'as entendu parler de ce truc? Alors, ça raconte l'histoire d'une famille de bouseux qui vivent dans Louisiane. Et c'est une entreprise familiale qui est spécialisée dans la fabrication d'appos pour...
Ok.
pour appâter les canards,
ouais.
Entre autres. La boîte s'appelle Duck Commander, donc donc on suit les périples de toute cette famille, de toute cette génération, parce qu'il y a trois générations qui sont représentées dans cette espèce de télé-réalité. Donc avec le grand-père fondateur et tout, qui lui a laissé tomber l'entreprise, mais maintenant il est devenu évangéliste, donc le mec il dit la messe et tout quoi. Et on assiste donc au passe-temps de la famille, hein, quand ils sont pas au boulot quoi, en train de fabriquer leurs appos,
avec des on va dire des réjouissances telles que dégommer des serpents à sonnette au fusil M15, par le M16 avec les petits pélos, le M15 c'est le truc avec les gros pélos quoi, où tout explose. Enfin voilà quoi, donc c'est assez rigolo quoi, c'est assez se regarder quoi. On est en plein pays redneck, en pleine Louisiane et tout, il y a des marais, il y a des bayous, il y a tout ce que tu veux quoi. C'est assez intéressant, donc ça s'appelle Duck Dynasty et ça passe sur Planète. Vendredi prochain 22h20 l'épisode 5 à l'épisode 8 avec donc comme titre il y a Grenouille sur le green, ensuite il y a l'attaque des bourbons géants et ensuite il y a les castors frits.
Donc voilà. Ouais.
Super. Super.
Super.
À peu près.
Allez Thomas, allez, allez.
Si vous pouviez ranger vos Legos, ça m'aiderait beaucoup pour les émissions
suivantes. Allez, s'il te plaît.
Si quelqu'un peut me faire le résumé pour ceux qui ont pris l'émission en cours de route, qui sont arrivés en plein milieu sur le stream, la FM, ou qui ont écouté en diagonale le programme. Ah merde, on avait dit qu'on ferait le bonus.
Moi j'ai fait Xavier.
Ah ouais, mais... c'est pas mal ressemblant. Hein.
C'est les lunettes.
Ouais. En plus j'ai oublié
et
de faire...
Et le casque. Il a le casque.
J'ai oublié de faire le bonus, mais tant pis.
Avant que tu commences, dis-moi.
Oh tiens, on a le temps, on va le faire le bonus.
Juste un truc. Non. Attends. Une question personnelle.
Ouais.
T'avais prévu ton coup là.
J'avais calculé le nombre de briques avant et je l'avais répété avant à la maison.
Je le savais.
Bah oui.
Et du coup, t'avais des restes un peu quand même. Hein.
Oui, j'en avais volontairement amené plus au cas où mes camarades voudraient jouer aussi.
Je vois pas de quoi tu veux parler.
C'est très gentil.
Merci,
en termes de bonus, d'ailleurs, si vous avez suivi la série Fringe, vous pensez forcément au personnage de Walter Bishop, qui est cette espèce de savant fou complètement allumé, qui parle bizarrement. Ouais, et ben, il existe en vrai. Il se prénomme bien Walter, mais son nom c'est Lewin. Il est prof. Effectivement, à Boston, au MIT, il est professeur de physique et depuis 99, en fait, il y a une compilation de ses cours en vidéo qui sont des cours de physique pratique où en fait il démontre l'ondulation, un truc comme ça. C'est à pleurer de rire, c'est-à-dire ces vidéos qui sont devenues extrêmement populaires à tel point que le MIT les a foutues en ligne. Elles sont assez fun et on y retrouve tout le Walter Bishop. Le prénom, l'accent, les démonstrations foireuses, l'humour un peu étrange et le côté alors là je vais toucher un truc etc. Et là tu as un peu le réflexe de te planquer, tu sais pas vers où ça part. On vous mettra les liens vers les vidéos de Walter Lewin, ça vaut vraiment le coup. Mais il faut comprendre l'anglais par contre.
En tout cas, grâce aux séries télé, on peut apprendre la physique et la chimie à travers deux Walter. Et ça, c'est pas mal.
Il y en a qui gagnent plus que l'autre.
Oui. ça dépend.
Kiff. Allez. Non, c'est pas le. C'est ça que je veux, voilà.
Ouais, alors tout à l'heure j'étais occupé à jouer au Lego, alors le générique il est pas complet. Alors on avait une émission en briques, un Xavier en rut, de la baston mythologique, de la boîte à insultes, des appâts à coin-coin, du castor. Et j'étais en train de compléter, vous compléterez vous-même en écoutant le podcast. Merci.
Merci Ultimatum, si vous avez manqué tout ça grâce à la diffusion différée. Eh ben, vous pouvez et à la demande surtout, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission, mais aussi les précédentes, nos chroniques écrites. Laissez vos commentaires, posez vos questions. N'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site web de l'émission, supplémentweekend.fr. Vous aurez retrouvé nos wines, nos commentaires, nos chroniques écrites. Posez vos questions, c'est facile, on y répond. Morgan vous attend d'ailleurs pour ses courriers des auditeurs. Il vous attend.
Habillé.
Ah oui, tout à fait. Et bref, n'hésitez pas, il suffit donc d'aller sur le site, vous cherchez supplémentweekend.fr, sans accent ni tiré, on y est direct. Vous écoutez FMR sur 89.1 MHz, nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM et merde! À la semaine prochaine, au revoir! When we sleep together, side by side, you and I, gonna win forever. Let's party forever. We're the same, I'm like you, you're like me. We're all working in harmony. Everything is awesome. Everything is cool when you're part of
awesome than an awesome possum. Dip my body in chocolate frosting. 3 years later, I shot the frosting. Smelling like a blossom, everything is awesome. Stepped in mud, got new brown shoes. Awesome to win and it's awesome to lose.